de Beaumont, le recolleur de tête. Ce que je viens de voir et d'entendre bouleverse ma raison. Oh, je n'ai pas rêvé pourtant. C'est bien en plein jour, au milieu de choses qui me sont familières, en présence des sommités médicales du Nouveau Monde, que j'ai vu et touché le corps tiède d'un assassin décapité il y a 2 ans. Criez à l'imposture tant qu'il vous plaira, j'ai vu. Épouvanté, mais sceptique encore, je promenais un doigt sur le cou détaché qui réunit au tronc de cet homme qui a survécu à la mutilation suprême. Un bourrelet de chair blanche sur un col brun, un sillon net et droit sur la nuque, une cicatrice parfaitement circulaire, attestant à n'en pas douter la trace du terrible couteau. Nulle autre blessure, du reste, n'aurait produit des désordres organiques que j'ai constatés de visu. La science ne peut-elle pas opérer ce prodige? Le docteur Caballos, enfin, n'est-il pas mon ami? Et qui donc oserait élever une protestation ou même un doute lorsqu'il a dit « J'affirme que la clinique du grand spécialiste américain est située à Vaugirard, à 2 pas des fortifications, entre la porte d'Issy et la station de Grenelle-Ceinture. Maison banale, sans style, avec un petit jardinet et son jet d'eau. Et au rez-de-chaussée, le cabinet de consultation, tout à côté la salle d'expérience et le laboratoire. Cela simple, sans prétention, sans pose. Un vrai sanctuaire de chercheurs. Il y a 3 ans, M. Caballos a quitté Lima, où son nom est vénéré, pour s'installer à Paris. On l'y connaît à peine. D'aucuns le traitent de fou, ennemi du bruit et de la réclame. Il vit à peu près retiré dans ce faubourg, travaillant comme papin, comme palissy, au bien-être d'une humanité qui passe indifférente. Près de lui, à ses côtés, qui demain lui adressera des statues. C'est là que j'ai découvert ce modeste, puisse-t-il me pardonner d'avoir jeté son nom aux 4 coins du monde et dévoilé le secret de ses étonnantes découvertes. Un matin, je reçois ce bout de billet. Pablo, l'assassin dont je vous ai parlé tant de fois, vient d'arriver à Paris. Il est mort chez moi. Venez vite et vous serez convaincu. Caballos. 1 heure après, j'étais à Vaugirard. Eh bien, votre décapité parlait? Oh non, il ne parle plus. Mais vous allez pouvoir voir. Et à voir débarquer du Havre, une méningite se déclare. J'ai reçu mourant. La traversée, le branlement nerveux causé par le mal de mer, que sais-je, enfin, il est là. Son témoignage verbal est inutile. L'autopsie que nous allons faire sera vraisemblablement plus éloquente que le récit de son aventure, mais hâtez-vous. Allez. essoufflé, fiévreux, nous entrons dans la salle d'expérience. Sur la grande dalle de marbre, noir, un homme est étendu, raide, la bouche ouverte. C'est Pablo, le parricide, décapité à Lima le 10 octobre 1877. Est mort à Paris, et bien mort en juin 79. Petit, nerveux, tête brune, cheveux crépus, des anneaux d'or aux cheveux, aux oreilles, un type d'Indien sans mêlée, barbe rare, dents longues, jaunes, des yeux de vautour, brillant encore, des vêtements de marin. Tel est le personnage, la chemise largement ouverte, découvre la poitrine et le cou, ce cou hâlé, mince, où le couperet du bourreau a imprimé un sillon blanc que j'ai décrit. À côté du corps sont rangés les couteaux, une scie, divers scalpels, une sonde, des appareils d'injection, tout ce qu'il faut pour une autopsie. Oh, je n'ai pas peur, mais je me sens pâle. Que va-t-il se passer? Ce bonhomme-là, me dit Caballos, en nouant son tablier à bavette, est le plus étrange sujet que j'avais passé par les mains d'un anatomiste. Je l'ai vu mort, sa tête à 10 mètres du tronc, arrosant la terre de ruisseaux de sang. J'ai tenu cette tête au bout de mon bras, pensant que le reste se tordait à mes pieds. Et ensuite, j'ai réuni le tout. J'ai revu marcher, manger, rire et boire, comme le premier convalescent revenu. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Mais puisque le phénomène est là, sous vos yeux, je vais vous rapporter et le rappeler en quelques mots. Au Pérou, nos chirurgiens pratiquent souvent la greffe animale. Vous n'ignorez pas cette merveilleuse application de la science physiologique qui consiste à rejoindre des parties brusquement séparées du corps humain et alors rendre, après la soudure, la chaleur, la sensibilité, le mouvement, enfin, toutes les fonctions vitales. Cels et Galien rapportent à ce sujet des faits extraordinaires. Tergagno dit au XVIe siècle, recollait les nez et les oreilles tranchés par le bourreau. Ambroise Paré, plus tard, Donis et Kornberg reproduisirent avec succès les mêmes expériences. Le docteur Brasbourg rapporte le cas d'un charcutier d'Édimbourg qui, après avoir eu l'index emporté d'un coup de hache, recouvra l'usage de ce membre rétabli, fut recollé, mis en place et rapidement guéri. Le bras tout entier d'un soldat qui vit aujourd'hui dans le département des Vosges a été ressoudé de la même manière après la bataille d'Andon. Vous lirez le fait dans la Gazette et dans le dictionnaire des sciences médicales. Les exemples abondent. Et l'histoire de la chirurgie contemporaine est pleine de récits de ce genre, de récits de doigts, de mentons, de dents, de nez, de paupières restaurées. Et dans tous les cas, la continuation des vaisseaux, des nerfs, eux-mêmes se rétablit, pour ainsi dire, sans effort. Il y a mieux. La partie transplantée prend les caractères de celle dont elle tient la place, la peau faisant office de lèvres devient muqueuse, la muqueuse amenée au dehors devient peu à peu un lambeau, et le lambeau le périos suffit pour reconstituer un autre. On a pu même renouveler toute la voûte osseuse du palais. L'infatigable nature répare ainsi les pertes qu'elle a subies, et molécule par molécule refait à neuf l'origine, l'organe indispensable à raccommoder comme sujet. Oui, je vois tout, je sais tout cela, répondis-je. D'essai en essai, reprit le docteur, et toujours enhardi par les cures les plus heureuses, je fus amené à cette conclusion que la tête d'un mammifère quelconque pourrait, après la décollation, reprendre sa place et revivre. Bon, c'était fou, absurde, je le sais bien. Tous les spécialistes, mes confrères, haussèrent les épaules. L'Académie de Lima me fut examiné comme aliéné. Je me mis au travail, et je me mis aussi au banc de la médecine américaine. Un autre fait abandonnable, et juré comme Galilée que la Terre ne tournait pas. Mais vous me connaissez, je tins bon. Un journal, la Revista Franco, Chirurgica de Pérou, rédigé par mon vieil ami Ignacio de Lorca, je publiais le contre-filet que voici. Le docteur Thomas Galeros, praticante mayor interne de l'hôpital général de Lima, s'engage à recoller la tête du parricide Pablo, condamné aujourd'hui à la peine capitale par la haute cour criminelle de cette ville, et sous caution d'une somme de 1000 piastres fortes déposées à la banque péruvienne, promet de rendre la santé aux suppliciés dans le délai maximum de 3 mois. Le docteur Caballos opérera en présence de tous ses confrères qu'il convoque dans la prison de Lima le 18 octobre, jour de l'exécution, à 7h30 du matin. Signé Thomas Caballos. Le lendemain de la publication foudroyante de cette foudroyante épouvantable note, le président de la République fit placer à ma porte 2 sentinelles armées avec ordre de me laisser sortir qu'en plein jour et après une fouille minutieuse de mes affaires. Évidemment, aux yeux de la police et de tous les concitoyens, j'étais un fou dangereux, capable de commettre, de mettre la capitale à feu et à sang. Sans m'émouvoir, je reposais tranquillement à la banque de Lima les 1000 pesos dont je me fis donner un reçu en règle, repris mes travaux et attendis le grand jour de l'exécution, non pas sans moindre, sans douter de moi-même de la réussite si prématurément escomptée. L'Académie avait prononcé son arrêt. J'étais digne de la camisole de force. Eh bien, vous allez voir lequel des deux avait raison. La veille de l'exécution, j'allais au Presidio voir mon sujet. Le malheureux ne fut pas médiocrement étonné en se trouvant, lui, condamné, libre et sans entrave vis-à-vis d'un médecin que gardaient à vue des soldats armés jusqu'aux dents. Pablo, mon ami, lui dis-je, je suis chargé d'une triste nouvelle. Le président de la République a rejeté votre recours en grâce. Nulle puissance humaine ne saurait vous arracher au bourreau. Demain, au point du jour, vous comparaîtrez devant Dieu. J'ai obtenu cependant une faveur qui abrégera votre supplice et peut-être vous sauvera. Prêtez-moi toute votre attention, Pablo. Il s'agit de tenter un miracle. La vie, entendez-vous? Je vous apporte la vie. Le bandit me regarda d'un air terne. Ce médecin des morts qui lui parlait de salut entre deux baïonnettes, cette possibilité de délivrance, alors que tout espoir était perdu, il ne comprenait pas. Les lois du Pérou, repris-je, vous condamnent à la potence. 5 minutes d'une horrible agonie, l'asphyxie, la strangulation, la désarticulation mortelle de vos os. Voilà ce qui vous attendait. Sans moi, le chef de l'État a pitié de mes prières. Il consent à commuer votre peine. Réjouissez-vous, au lieu de mourir sous l'infâme gibet que vous aurez simplement la tête tranchée. Pablo m'enveloppa d'un regard de souverain mépris. Pour lui aussi, j'étais fou. Oh, la gratitude des hommes. Écoutez-moi, mon ami. Je suis médecin et savant, dit-on. J'ai découvert l'infaillible moyen de rejoindre des parties séparées du corps. Votre tête tombée, je la récolterai sur vos épaules aussi aisément que cette queue de chat a été greffée à la tête de ce coq. Et je tirai de ma poche une crête à laquelle, en effet, j'avais adopté la queue d'un petit chat et que, pendant 2 ans, mon coq avait fièrement porté comme un panache. Les deux miliciens ne purent retenir un éclat de rire à cette étrange exhibition, et le condamné lui-même se dérida. Encouragé par l'heureuse disposition d'esprit de mon patient, j'abordais de front les grosses difficultés. Ne doutez pas du succès, Pablo. Armez-vous de tout votre courage. Le coup donné, tâchez de concentrer dans le cerveau ce qu'il vous restera de force vitale et de volonté. Pas de défaillance. Je serai là. Si vous parvenez à franchir de sang-froid la seconde pénible, sans doute, mais après tout fort courte, de la décollation, vous serez sauvé. Jurez-moi sur le Christ que vous ne perdrez pas la tête et que, si votre raison ne vous a pas abandonné, vous fermerez l'œil gauche. Oh, Oh, ce serment est facile, répondit Pablo. Oui, je le jure. Bien. Alors, votre gauche fermée, cela voudra dire je me souviens, donc je vis, donc je sens. Et alors, je réponds de tout. Allez, touchez-la. Dans quelques jours, nous boirons encore ensemble à la santé du bourreau. Et je sortis de la cellule en répondant, en répétant au pauvre diable, l'œil gauche. Toute la nuit, Lima fut bruyante, animée, houleuse. De fortes patrouilles parcouraient les rues, sabre au poing, baïonnette au canon. Une émeute était à craindre. La foule, avide du spectacle de la potence, ne semblait pas disposée à tolérer que l'exécution eût lieu dans la cour du Presidio, en présence de quelques médecins et de quelques journalistes. Elle blâmait la faiblesse du chef de l'État. Elle reprochait à la justice l'application d'une pénalité contraire aux lois du Pérou. Il lui fallait son gibet et son pendu frétillant. Et les processions des confréries et tout l'appareil pompeux de la mort. Le huis clos l'exaspérait. Cependant, dès 7 heures, mes collègues de la faculté arrivaient au rendez-vous. Les éminents docteurs Bartolomé Pardo, Igador Paluche, Domingo Lurza, Ricardo Ricam, Sébastien Tessarec, tous les médecins civils et militaires de la capitale étaient là. Je parus plus pâle cette fois que le misérable dont j'avais promis de sauver la tête. Un murmure de pitié m'accueillit, et devant cette unanime réprobation de mes juges, je baissai le front comme une victime, comme un coupable. Derrière moi, Pablo marchait, calme, tête haute. Entre l'aumônier et le bourreau. Prompt comme la pensée, je me jetais sur ce crâne. Je saisis à pleine main les cheveux crépus que voilà. Cependant que deux internes disposaient et attachaient le tronc sur une chaise de fer, je plongeais ce cou saignant dans un baquet d'eau qui aussitôt devint rouge. Et une minute après, la tête était parfaitement exsangue. Oh, surprise! L'endroit était grand ouvert. L'œil gauche, lui, seul semblait dormir. Pablo s'était souvenu, et entre le coup de couteau et l'instant où je tenais là, dans ma main, le grand criminel avait donc vécu, il avait pensé. 5 minutes s'écoulèrent. Les derniers jets de sang lancés par les carotides se figèrent en caillots vermeils sur le tronçon du cou. « Tout est prêt, maître !» dirent mes aides. Il n'y avait pas une seconde à perdre. La moindre hésitation, le plus léger tremblement des doigts et le succès de l'expérience étaient à jamais compromis. Je fis appel à toute mon énergie. dussiez-vous rire de moi. J'avoue que j'adressais une courte prière à Dieu, au Dieu de l'éternelle science. Secondez mes efforts, lui dis-je, et guidez ma main. Il y va du salut d'un pénitent, d'un pécheur qui s'est repenti. La justice des hommes l'a condamné, que votre souveraine clémence lui pardonne. Maître, s'écria l'un de mes aides, le couteau a passé entre la deuxième et la troisième vertèbre cervicale. Un fragment des apophyses est seul emporté. Oh, le vent de la nature se simplifie, j'espère. Le cœur ne saigne plus, dit le second opérateur. La plaie est lavée. Tout va bien, j'espère. Alors, je posai carrément la tête sur la base de façon à ce que la continuité de la moelle, des artères, du pharynx, de l'ésophage et de toutes les fibres musculaires puisse opérer sans déviation. Et en même temps que je donnais l'ordre à mes élèves de coudre les lèvres de l'horrible blessure, je pratiquais à l'artère fémorale une incision par laquelle j'injectais 2 livres de sang d'un jeune veau, et maintenant, en maintenant toujours la tête et le corps immobiles grâce aux armatures de fer imaginées par moi, et je continuais pendant 2 heures cette transfusion revivifiante au milieu d'un silence où se mêlait une sorte de stupeur. La faculté doutait encore, mais elle ne riait plus. Le fou ne se comportait-il pas comme un sage? Et le succès, tout improbable qu'il fût aux yeux des savants, ne pouvait-il pas couronner une opération si bien conduite, si conforme aux règles de la chirurgie? Et à mesure que le sang tout chaud du pauvre animal qu'on venait de sacrifier s'infiltrait dans le réseau artériel, mes aides et moi nous sollicitions par des pressions régulières sur les muscles thoraciques le jeu des poumons, et petit à petit la teinte rosée de la vie s'étendait, gagnait les extrémités. Une chaleur douce pénétrait les chairs, le cœur soulevait visiblement la poitrine et le pouls faible encore. Filiforme répondait à la pression de mes doigts. Oh, ce n'était pas la résurrection peut-être, mais c'en était toujours l'apparence, la merveilleuse illusion. À 10 heures du matin, le patient ouvrit et ferma les yeux. Ses lèvres frémirent. Un long sifflement nasal rejeta dehors les caillots de sang qui obstruaient les conduits actifs. Et un cri, oui, un cri inarticulé, rauque, jaillit de la gorge du cadavre. Un long murmure d'admiration lui répondit. Il vit, glapirent mes élèves, pendant que la faculté de Lima, par les 20 hommes les plus doctes professions, répétait ces 2 mots qui résumaient mon triomphe. Il vit. Que vous dirais-je, continua Caballos, dont le visage rayonnait d'une joie pure. 8 jours durant, je dus maintenir sur les épaules de mon sujet sa tête encore mal assujettie, Mais la nature, oh, notre puissant collaborateur, poursuivit son œuvre invisible de réparation par quelle miraculeuse et divine vertu les vaisseaux et les nerfs furent-ils reprendre après le coup de couteau leur fonctionnement normal. Comment la vie a-t-elle réuni les deux tronçons de ce corps? Pourquoi les jeux divers du mécanisme, de la parole, de la déglutition et de la respiration ont-ils recommencé sans obstacle? Et quelle mystérieuse influence, enfin, a rendu la pensée à ce tout. Non, reprendra. Et quelle mystérieuse influence. Et quelle merveilleuse influence, enfin, a rendu la pensée à ce tout naguère inerte. C'est là un problème que je ne saurais résoudre. Pablo a vécu 2 ans au Pérou. Et le Pérou tout entier connaît son histoire. Et j'affirme qu'il serait encore plein de force sans le démon des voyages qui l'a poussé un jour à visiter Paris, le malheureux. Et pendant que mon ami Cavallos enfonçait son couteau dans le cou nerveux du Péruvien, je ne pouvais me lasser de contempler ce cadavre qui était mort 2 fois et ce savant dont la main avait suspendu l'œuvre fatale des destinées humaines.